Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre.
Bonsoir.
C'est l'équipe d'Imaginaire en direct sur le 101.5 ouais. Jusqu'à 22h, ouais, c'est cool.
Un peu paumé le nouveau casque te dérange là, ouais. Je sens bien.
On est équipé des trucs, il y a Pierre-Marie qui a mis des préservatifs sur tous nos micros.
Sauf le mien. C'est des charlatans.
Et il a raison.
Et je n'en ai mis que sur toi et moi. On partage la même capote.
Alors Jean-Luc, tu vas nous parler de plein de choses.
Oui. Je vais vous parler de trois romans que j'ai lus et de deux séries. Et je vais faire des brefs résumés du reste.
C'est cool. Julien,
ah ouais. Bah moi, Goldorak, quoi.
Voilà, c'est cool. Hein.
Ouais, c'est cool. Faire un petit aperçu aussi d'un petit livre qui s'appelle Super Héros, qui est sorti.
Ça s'appelle ça un petit livre ?
Ouais, chez les moutons électriques.
Ah. Et Karine et Pierre-Marie reviennent des Utopiales.
Oui, avec pas mal de magnifiques expositions, dont Goldorak. En fait.
Voilà, c'est ça, c'est cool.
Ça a été, il est partout. Goldorak.
Le lien, c'est
donc une expo sur Goldorak, la BD récente.
Oui, il y avait toute l'équipe de Goldorak qui était là, dont Denis Bajram, dont voilà, on avait eu une interview il y a quelques temps.
Ok. Et ben...
Goldorak qui repasse sur France 4 en plus.
Non.
Si, ça repasse sur France 4 à 18h, je crois, ou 18h30 tous les jours.
Mm-hmm. Alors, c'est quel générique qu'on entend?
On va en rediscuter, les Fatal Picard, sûrement. Mais...
Voilà, d'accord. Eh ben, je vois que tu as aussi un livre des Utopiales, Pierre-Marie.
Bah, j'ai l'anthologie des Utopiales, l'anthologie officielle des Utopiales. On l'appelle l'anthopiale dans le milieu. Mais...
Ah, d'accord. Bon, et ben on vous écoute, hein, c'est le moment de faire le débrief. Pas de Tyrannosaurus Imperium.
Ouais. Après ou avant Tyrannosaurus?
Non, non, il n'est pas là. Non.
Il donc, est pas là bah, en même temps, allez, c'est le début d'hiver, donc là, bilan. Il est parti pour faire une petite hibernation. Vu que ma belle voix, vous l'entendez depuis tout à l'heure, je vais peut-être laisser commencer Karine. Commence Karine.
Super, merci beaucoup. moi, j'ai pas grand-chose à dire à part le fait que j'ai assisté à trois conférences, dont une sur la fragilité et l'antifragilité.
L'antifragilité.
Voilà. Ils ont exposé toute une réflexion en fait sur la fragilité dans la science-fiction.
Ah, quand même. D'accord.
Et comment ça revient aussi dans l'art de manière générale. Il y a aussi eu la mention que la science-fiction teste aussi les lois de la science. C'était très intéressant et que justement, elle permet aussi une évolution avec la société. Voilà. En résumé, pour cette conférence-là.
Ok.
Et il y a eu une conférence sur Dune qui, qui exposait tout le processus du roman et du film aussi et expliquait notamment les différences entre le film et le roman. Parce qu'il y a eu notamment une féminisation d'un des personnages.
C'est vrai.
Et il y a eu aussi une mise en valeur des pensées d'un des personnages aussi. Enfin, il y a eu plein de choses.
Ok.
Et justement, ils reprennent les thématiques de l'écologie et de la famille notamment. Voilà.
Et ils ont féminisé qui ?
Comment ? Liette. Non, c'est ça.
Je sais pas, je pose la question.
Le chef des Fremen, je crois.
Et puis ils ont fait disparaître quelques autres. Mais
Ah, bah oui, mais bon, ça.
C'est pas très grave.
En tout cas, ça donne envie de le lire, si jamais.
Ben moi, je suis en train de le lire en ce moment et je trouve que c'est très peu décrit, en fait. Mmh. Il y a beaucoup de dialogues, donc du coup, ça laisse vraiment beaucoup de liberté au cinéaste. Hein.
Et David, c'est pour ça que David Lynch avait mis David Lynch, je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai un peu la bouche pâteuse. Tous les machins, tous les Arcturus étaient roux.
Arconen.
Excusez-moi.
Arcturus, c'est dans Goldorak.
Oui, c'est ce que. J'ai passé deux jours à parler avec Lloyd Cherry de Dune et puis Goldorak avec Denis Bajram et les deux commencent à
se mélanger.
Il y a une fusion dans ma tête. Bon, on va laisser parler la petite.
Arrête. Alors, la dernière conférence à laquelle j'ai assisté, justement la planète B, qui est une réflexion sur comment va-t-on faire par la suite, justement pour la planète
B, t'as dit.
Ouais.
Pour une deuxième, quoi, pour immigrer.
Ouais, mais justement, la réflexion était plutôt dans le sens où il vaut mieux sauver la nôtre.
D'accord. Et bilan officiel, 75 000 visiteurs.
En 4 jours, alors qu'en 2019, nous avions fait 82 000 visiteurs en 5 jours.
Ah oui, ok.
2019, 100 000 visiteurs en 5 jours. Théoriquement, ça se passe entre les deux. Le résultat n'est pas mauvais. 70 séances de cinéma, 8 expositions, 8 conférences traduites en langage des signes et 150 tables rondes. En tout et pour tout.
Est-ce qu'on peut les revoir qu'on peut les retrouver?
Tout a été enregistré par ActuSF.
Okay.
Ils ont ouvert une autre salle qui était la salle 2001 et qui est en fait l'énorme plateau dans l'amphithéâtre.
Une salle de conf en plus.
Et en fait, tout est enregistré auditivement et certaines ont été enregistrées visuellement. Mais comme l'équipe d'ActuSF est minime, tout n'était pas récupéré. L'affiche a été fait par Alex Salis. Si le visuel vous parle, c'est parce qu'on lui doit la BD, la série de BD, Le Château dans le Ciel. Si jamais ça vous parle un petit peu.
Bien sûr.
Oui, non, c'est ici.
Il y a un rapport avec.
Il y a une exposition également
Sur
cette BD-là au niveau du festival, justement.
Bon, et l'Expo Goldorak, du coup.
Alors, j'y arrive. Avant d'arriver à l'Expo Goldorak, je rappelle qu'il y a quelques années, Denis Bajram, Xavier Dorisson et Alexis Santenac ont fait les couvertures, les visuels des Utopiales. Et en fait, le projet Goldorak est un très vieux projet, je crois que c'est 2012 ou 2013. Et c'est les noms que je viens de vous donner sont dans le clan qui a fait Goldorak. Ils avaient eu comme projet de faire dans chacune de leurs affiches un rappel à Goldorak qu'on ne pourrait voir qu'une fois que le projet serait officialisé. Donc si vous regardez les affiches des Utopiales qu'ont fait Denis Bajram, Xavier Dorisson et Alexis Santanak, vous verrez des points rappelant le Goldorak.
Ah ouais. En tout cas, apparemment, d'après leur promo, ça a été rapide pour obtenir les droits, enfin au moins le feu vert de Go Nagai, si j'ai bien compris. Ils ont reçu la réponse dans la semaine, quoi.
Ça, je ne sais pas, je laisserai Julien parler de
non, mais c'est bon, vous avez fait ma chronique, je ne sais pas rien.
Et on va peut-être parler du
le palmarès.
Du palmarès, exactement. Le prix extraordinaire des Utopiales va à Joël Winterberg. Pour son apport à l'imaginaire. Le prix Utopiale 2021 va à After Dorian Velton aux éditions de Mnemos. Le prix Utopiale Jeunesse va à Félicracy de Le Noir aux éditions Sarbacane. Le prix Utopiale BD va à Carbone et Silicium de Mathieu Bablé aux éditions Ankama.
Qui avait fait une affiche pour les Utopiales d'ailleurs, je crois, non?
Exactement. C'était le côté transition, double corps. C'était une affiche homme-femme sur un style un peu japonisant. Le prix Julia Verlanger va vers les étoiles de Marie Robinette Kowal aux éditions de Noël. Il y a eu les remises de prix pour les années 2020.
Et ouais.
Parce qu'ils n'ont pas pu avoir lieu. Les prix ont été remis à ce moment-là. Là, ils ont fait l'officialisation. Donc, pour rappel, les prix Utopiales 2020, c'est Rosewater de Ted Thompson aux éditions J'ai lu. Le prix Utopiales Jeunesse 2020, c'est Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse. Le prix Utopiales BD 2020, c'est Mécanique Céleste de Merwan aux éditions Dargo. Après, il y avait bien sûr les parties cinéma et la partie ludique. Est-ce que je...
Ouais, si, donne-nous quand même le prix et les prix ciné, ouais.
Prix public 2021 pour Beyond the Infinity 2 Minutes.
Waouh!
Eh, j'ai fait des efforts.
Vous l'avez vu?
Ouais.
Non.
Non.
De Junta Yamaguchi, Japon. Le Grand Prix du jury 2021 va à Belle de Mamoru Hosoda.
Ouais, qui est un qui avait fait les Enfants Loups, je crois, hein, pas mal d'animés ces dernières années.
Et que je ne les connais pas. Non, mais c'est du coup, je vous fais confiance.
Un poids lourd de l'animé.
La mention spéciale du jury 2021 va Mondokan d'Alessandro Celli, italien.
Ouais.
Le prix du public 2021 va The Following Years de Miguel Campana, Espagne, États-Unis. Le prix du jury 2021 va Please Hold de Cadet Davila, aux États-Unis. La mention spéciale du jury 2021 pour la mise en scène va The Following Year de Miguel Campana. La mention spéciale du jury 2021 pour l'animation va Opéra de Eric Ho en Corée. Et le prix Canal+ va Zealandia de Bruno Debois, Nouvelle-Zélande. Le prix ludique meilleur scénario de jeu de rôle sera pour Ceux qui vont mourir de Pierre-Éric Mouton dans l'univers du jeu Terre d'Aran qui regroupe des séries de BD elfes, nains, mages, orques et gobelins aux éditions Black Book Edition.
Est-ce que vous avez été voir, il n'y a aucun prix pour le film que je voulais absolument voir, The Spine of Night, alors, animé qui est passé samedi midi.
Le problème de nous, ben ouais, envoyé spécial
vous avez bossé.
Exactement. À partir de, enfin, depuis l'année dernière,
les films, c'est
des grands
aussi, non,
chiffres d'entrée depuis 2019, toutes les conférences sont sur réservation, sauf une petite partie qui va aux accrédités presse. Hormis le cinéma qui n'a pas cette partie-là, du coup... Comme on ne sait pas à l'avance quand est-ce que nos interviews vont arriver, on ne peut pas réserver nos places pour le cinéma. Du coup, on ne peut pas arriver au dernier moment en disant « Bonjour, je voudrais voir ». Ça ne marche pas.
Bon, du coup, vous nous avez ramené des interviews qu'on va diffuser dans les émissions suivantes. Ah, okay.
Six, on a tenté une septième, mais il y a eu quelques soucis. Mais six interviews.
Qui
vas-y, présente.
Mais juste les noms.
Émilie Kerbalak pour son roman qui est sorti chez Albin Michel Imaginaire. Jean Barré pour sa trilogie sortie aux éditions du Bélial. Isabelle Bautian pour sa trilogie sortie aux éditions ActuSF. Romain Lucaso pour son dernier roman sorti chez Albin Michel Imaginaire. Et sa série chez Le Bélial qui va être éditée, Latium ou Latium. On a eu un grand débat sur ça. Et il me manque un nom,
Christian Léourier.
Christian Léourier et Floriane Soulas.
D'accord, très bien. Bon, on s'écoutera ça dans les prochaines émissions, peut-être après notre salon, quand même, hein, qui a lieu dans un mois, fin novembre. Ouais. Du coup, je vais vous passer un extrait de la BO de. Ah non. Alors, j'ai pas la BO de The Spine of Night, mais comme c'est un film de Morgan King qui avait fait des courts-métrages qui sont très bien sur YouTube, on va s'écouter un extrait de la BO de Exordium par Strand of Oaks. C'est un folk d'Austin, on le verra peut-être un jour par chez nous avec le jumelage culturel, mais là il a fait un petit effort, hein. C'est un petit peu différent là ce qu'il nous a fait pour la BO. Donc pas très folk, hein, cette BO d'Exordium. Et alors, et dans The Spine of Night, j'étais content parce qu'il y a Lucie Lawless qui fait une des voix. C'est un film d'animation en rotoscopie. Vous savez qui c'est, Lucie Lawless?
Non.
Xena la guerrière.
Non.
Ouais, non. Je te jure.
Et elle fait des voix.
Ouais, elle fait la voix d'un des personnages dans The Spine of Night.
Du coup, quand le film passe en France avec les voix françaises, puisque c'est un film d'animation...
Alors pour le moment, il n'est passé que dans 2-3 festivals, donc je crois qu'on n'aura pas de... Ça reste très très confidentiel quand même, comme truc, je vois pas, ça m'étonnerait qu'on ait droit à une VF. Hein. Et donc c'est un film en rotoscopie, hein. Vous connaissez le principe, c'est on filme des gens et après on redessine un peu sur leur mouvement, quoi. Ça rappelle beaucoup, on en a parlé dans l'émission précédente.
Sin City, non?
Non, le Seigneur des Anneaux de Bechki.
Voilà, c'est ça. Mmh. Voilà. Bechki. Ouais.
Il est un inculte.
Tigrin, comment ça s'appelle, la glace et le feu, je crois aussi, que c'est vraiment rotoscopie. Bon, et ben c'est l'heure de la chronique de Julien. Je te mets ton jingle là.
Fantastique année polar.
Si on m'avait dit qu'un jour je ferais un rapprochement entre Law and Order et Goldorak, je ne l'aurais pas cru. Tu sais, Law and Order, New York Police Judiciaire, c'est le petit ting-ting qu'il y avait à la fin du truc là. Eh oui. Bon, vous avez deviné, j'ai lu la bande dessinée Goldorak parue chez Kana, celle qui a été adoubée par Go Nagai, le mangaka à l'origine de l'histoire. Bon, alors, Goldorak, c'est une icône et une légende. Le dessin animé, il est étroitement lié à Recrea 2. D'ailleurs, il est là dès le 3 juillet 1978 pour la première de Recrea 2.
Mm-hmm.
Ça vous embouche un coin, hein. Bon, alors...
J'avais 2 ans, moi.
Alors, moi, je ne m'en rappelle pas, mais Jean-Hugues, ici présent, avait déjà passé l'âge de regarder des dessins animés, même si je sais qu'il s'est sûrement émoustillé sur Dorothée ou Ariane, ou les deux, et que faut toujours suivre le fil d'Ariane, comme il me disait justement, il n'y a pas plus tard qu'hier. Passons.
J'avais 19 ans, alors Goldorak, je veux dire.
Ouais, alors qu'Ariane, bon, d'accord.
Mais les quarantenaires, hein, trouvent toujours ça cool.
Revenons à nos moutons, et nos moutons, ils viennent de Vega. Le prince de Fort est parti, puis des méchants venus d'ailleurs l'ont poursuivi et se sont aperçus que le mont Fuji était source de lasernium, l'énergie requise aux nombreux Golgoths qui sont des robots pas très sympas. Donc les méchants décident de s'implanter au pays du soleil levant, mais le prince de Fort, il a de la chance. D'abord, il croise le professeur Procyon, un scientifique qui a la tête sur les épaules, étrange pour un scientifique, puis Rigel, un petit vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a un ranch qui s'appelle le Bouleau Blanc. Alors ça, c'est le détail qui tue. Moi, j'avais toujours cru que les ranchs, c'était dans le Far West avec des cow-boys à la dégaine de John Wayne vantée par Eddie Mitchell dans la dernière séance. Pauvre fou que j'étais. Donc le prince, il chope le seul mec au Japon qui tient un ranch, qui a une fille qui s'appelle Vénusia, belle comme c'est pas possible, avec un nom à coucher dans les étoiles. Et on voudrait nous faire croire que le grand strataguerre, il va pas avoir les chocottes. Quel crétin. Je passe sur Phénicia, Mizar, vous avez pas vu Mizar, et autres Banta. Il y a là toute une fine équipe avec des engins volants qui ont eux aussi des jolis noms à coucher dans les étoiles. Alcorac, Vénusiac, Fossoirac.
Ça fait Fossoyeur, ça.
C'est, ben, en fait, Fossoirac, son truc, c'est qu'il pouvait creuser des tunnels. Et il creusera un tunnel dans la bande dessinée dont on parle.
D'accord.
Voilà, c'est, il est très agile, très facile. Tout cela, il forme la patrouille des aigles, un nom bien japonais. Ils sont tous plus ou moins amoureux entre eux et n'ont qu'une seule vocation, c'est défendre la terre de ses envahisseurs. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années 1980-1990, les méchants, ils ont compris qu'ils n'envahiraient jamais la terre par les États-Unis. Ça, c'était pour les années 60-70.
Oui. Independence Day, c'est...
Alors, je parle des années 80, d'accord. Independence Day, tu mettras un peu plus loin.
Ils envahissent tout dans Independence Day.
Ils ont compris qu'ils pouvaient y retourner après.
D'accord.
Alors,
parce que aux États-Unis, au cas où tu ne le saurais pas, il y a les gangs de DC Comics et de Marvel qui veillent au grain. Ouais. Donc, les méchants, ils délaissent un continent pour un archipel. Faut savoir réviser ses ambitions, de toute évidence. Mais là-bas, c'est pire. Outre que les autochtones biomanes rivalisent avec Xor, ne voilà-t-il pas que l'autre, il traverse l'univers, en plus, aussi vite que la lumière, en faisant gaffe à l'excès de vitesse qui lui ferait remonter le temps, que si on sait rien de lui, ni d'où il vient, ni ce qu'il fait, on ne peut s'empêcher de penser quand même que c'est un formidable robot, assurément des temps nouveaux. Personne s'est penché dessus, mais le gars qui file vers son robot, le prince de fort, j'ai nommé Actarus, il fait un avec son robot. Enfin, c'est-à-dire que, comme me disait Jean-Hugues, il le pénètre et il l'habite. En plus, il a un fauteuil qui tourne sur lui-même, qui a fait beaucoup jaser. C'est-à-dire qu'il y a, quand même 360 degrés qui fait dans le générique.
Ça sert à rien, on est d'accord.
Ça sert strictement à rien.
Oui, mais ça, j'avais rien dit. Enfin,
sauf à faire parler. Hein,
wow, peut-être ça lui donne un peu la gerbe aussi.
Ouais, peut-être.
Aussi, peut-être. Mais bon, c'est la classe. C'est quand même la classe. Alors, le dessin animé, il dure dans sa première période de 64 épisodes. Il y a eu une série de mangas. Mais là, j'ai envie de dire, dans cette bande dessinée, Goldorak, c'est plus que du manga. J'aime bien avoir ce genre de tirade.
Oui, parce que je comprends pas bien ce que tu veux dire.
Mais c'est comme quand on te dit non, mais c'est plus que du polar.
Ah, c'est plus que de la SF.
Non, mais ça, on peut le dire. J'en perds ma ligne, je ne sais plus où j'en suis, d'ailleurs, c'est horrible. Pour en revenir à la bande dessinée, je trouve qu'elle est à la croisée du manga et du comics. C'est ça qui est intéressant. J'arrête de plaisanter. La grande ingéniosité de Xavier Dorisson et de Denis Bajram, c'est de nous proposer un peu, quand même, selon la tendance actuelle, une histoire contemporaine très noire. Les gentils, au début, ils sont disséminés au Japon et peut-être un peu dans l'univers. Quand surgit une nouvelle menace ? Bon, on va voir la sempiternelle histoire d'une équipe vieillissante qui se reforme, l'histoire d'une mission. Et quelle mission ? Mais pas que ça. Cette bande dessinée, magistralement illustrée, donc, alors là, bon, il faut que dire tous les noms, par Bajram, Kossu et Santonac, c'est une version noire et crépusculaire du dessin animé. Un peu comme la dernière version de Kaamelott, quoi. Enfin, la dernière saison de Kaamelott, je sais pas si
la sixième.
Ouais.
La cinquième, d'ailleurs.
Qui est comme la symphonie, qui est un peu plus sombre.
C'est la cinquième.
Bah, c'est la cinquième.
Parce que la sixième, elle passe, c'est Yandy.
Mais donc, il n'y a pas de sixième symphonie, c'est la cinquième.
Okay.
C'est pour ça, et j'ai encore perdu ma ligne. Ah là là, vous faites exprès pour m'embêter. Hein.
Oui, parce que sinon, elle serait parfaite, tes chroniques.
Bon, l'animé, il était déjà pas mal sombre, mais là, c'est quand même pire. Surtout, il y a un portrait psychologique d'Actarus, qui au début, il a la barbe, après, il l'a plus. Ça a son importance, qui vaut le détour et qui lui confère une identité, je dirais, dostoïevskienne. Goldorak, c'est un hommage crépusculaire à un héros d'enfance qui nous a marqués. C'est aussi une réflexion sur l'inanité de la guerre, la vacuité des intérêts personnels et le désastre humain qui nous arrive dessus avec Perth et Fatum. Et pourtant, il y a de l'espoir qui teinte cette bande dessinée. Je ne vous cache pas que le premier fulgure au point m'a fait frissonner, que j'ai franchement ri à la page 60. Je vous conseille la page 60, tu iras la regarder, Romain, et te fera rire aussi. Que j'ai redécouvert un univers complexe qui aborde plein de thématiques. Alors, je rends hommage aux BDistes de n'avoir rien sacrifié à la doxa actuelle. Et surtout d'avoir su préserver un petit bout de mon enfance et de me l'avoir redonné comme ça, l'air de rien et de 130 pages. J'avoue, je n'ai pas encore pris le temps de parcourir les nombreuses pages du making-of de la BD. Si vous avez des doutes sur elle, prenez le temps de regarder la couverture. Si elle ne vous enchante pas, qu'elle ne vous habite pas, ben, moi je peux rien pour vous. Pour un peu, je regrette d'avoir choisi les Fatal Picard pour clôturer cette chronique, alors que vous méritiez un coup de fulgur au point de Noam, et dire qu'il y en a qui se battent pour vous sauver.
La calandre est super enfoncée, et la peinture a bien morflé. Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait un cartable pédale. Comment je vais dire ça à papa? Au centre, ils voudront plus de moi. Le rétro gauche est tout pété, et les planitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak est mort, impossible de leur démarrer. Oh là là, Goldorak est mort. C'est sûr, mon père, il va me tuer. Il faut que j'arrive à joindre le corps. Je crois que le Delco est pété. Allez, des couilles, j'y pince de fort. Je vais quand même pas me mettre à chialer. Je me revois bien sortir de la boîte. Après, sur la petite route, je déboîte. J'ai vu des boules et le lapin. J'ai lancé les fulgures au poing. Pourtant, c'était bien au Xénon. Vénusia était trop canon. Elle s'est cassée avec Bioman. Et maintenant je me prends un platane. Et voilà Goldorak est mort. Impossible de leur démarrer. Et ben ouais, Goldorak est mort. C'est sûr, mon père il va me tuer. Comment je vais manger le rebord? Et le rail de sécurité sentait que je préférais être mort. Au contrôle technique là c'est râpé. Pardon de vous déranger. Est-ce que je pourrais téléphoner? Ouais, ouais, je suis habillé marron. Pour le Japon, je fais 0-1 devant. Allô papa, j'ai un pépin. Je suis entre Terrier et Amiens. Ouais, ouais, je sais, j'ai pas pris mon portable. Ah, ok, il est sur la table, écoute. Écoute papa, il faut que je te dise. Oui, je sais, j'ai pas pris ma carte grise. Pour y'a des trucs plus importants. Putain, j'avais vu de maman, mais tu ne l'avais pas dit avant. Je croyais que tu me cachais ma mère, parce que c'était le grand stratégère. Et voilà Goldorak qui mord. Impossible de leur démarrer. Et ben oui, Goldorak qui mord. Il te reste du câble à remorquer. C'est bon, me traite pas de tête de mort. J'ai ceci cher pour réparer. Faut demander des pièces à Albator.
Les Fatal Picard donc, et c'est l'heure de la chronique de Jean-Hugues dans Imaginaire sur le 100.5.
Félicitations, Reggie, c'est un calamar.
Chers auditeurs, bonsoir. Alors, il s'avère que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, et je vais vous chroniquer un certain nombre de livres qui ont retenu mon attention ces dernières semaines. Un peu d'histoire, au début des années 80, une bande de grands escogriffes se rassemble le soir venu dans une salle de la rue d'Ulm à Normalsup pour faire des parties d'un jeu sorti aux États-Unis, Donjons et Dragons. Il y a là François Marcela Froideval, Fabrice Sarelli, qui fondera avec son épouse la Maison Hexagonale, éditeur et distributeur de jeux, Tiki Olgado et ses Pin-Up Girls, et quelques autres. En 1986, sort chez Jeux des Cartes un wargame médiéval fantastique du nom de Ave Tenebrae, qui ne dit pas son nom, mais n'a d'autre sujet que l'ascension d'un héros, Wismeril, au statut d'empereur. C'est en 86 que sort le premier tome des Chroniques de la Lune Noire, en bande dessinée, avec François Marcela Froideval au scénario et le petit, à l'époque, Olivier Ledroit au dessin. C'est un très grand succès. Et français, je te ferai dire cocorico. Moi aussi, j'ai perdu mes lignes. Alors, soyons honnêtes, les premiers tomes sont géniaux et puis on change de dessinateur, le scénario s'étire comme un Zemmour touchant les droits de sa bouse. Mais on s'amuse, les filles sont belles et dénudées comme ça se faisait à l'époque, les héros attachants malgré leurs petits travers et le scénario délirant à souhait. Mais quelle surprise de voir les éditions Léa sortir une novélisation de la bande dessinée. Une novélisation de bande dessinée. Si, si. Alors inutile de dire que j'y suis allé avec une forme d'appréhension. À l'écriture, François Marcella Froideval est aidé par Jeanne Debats. Et il a bien fait de prendre Jeanne parce qu'elle a une plume. Comment ça, où ? Du coup, la chose fonctionne et on se transporte dans ce monde de high sorcery avec un certain plaisir, même si les lecteurs de la BD comme moi sont traversés par des fulgurances de cases de manière très trop fréquente. Mais ça raconte quoi ce bazar ? C'est l'histoire d'un jeune homme sans nom qui, monté sur une vieille carne de destrier, parcourt le monde quand il rencontre le roi des voleurs. Bon, pas capable de voler une poule sans se faire poursuivre par une horde de paysans. Et il est armé de deux épées d'un alignement contraire. Alors, les épées alignées sont une reprise par Donjons et Dragons des épées intelligentes, dotées d'une conscience et qui communiquent verbalement avec leur propriétaire, genre dans Kaamelott. Dans les cas du voleur double face, l'une est bonne et loyale et l'autre chaotique et mauvaise, ce qui donne des gags sans fin sur les discussions entre leurs épées et leurs propriétaires. C'est Double Face qui va donner son nom au héros, Wismeril, un demi-elfe, bâtard, doté de pouvoirs psioniques impressionnants et allié des êtres élémentaires de l'air. Alors en fait, Wismeril est un pion manipulé par une puissance maléfique qui se joue sur les terres de ce monde à une partie d'échecs contre une autre créature maléfique. Démons, manticores et autres monstres fourmillent dans le roman. Les personnages sont épiques. Bref, c'est du bon donjon, bien gras et bien magique comme on les aime. Les aficionados du jeu y trouveront encore plus de plaisir à reconnaître les artefacts avec lesquels ils ont pu être confrontés. Mmh. Alors là, je vais changer totalement de registre. Je vais vous raconter les aventures d'un homme qui se détruit à l'opium, qui est passionné de chimie, dont le meilleur ami est médecin. Les deux se livrent à une enquête où le pouvoir de déduction et d'observation du héros vont faire merveille. Et ce héros, c'est...
Hercule Poirot.
Oh, Sherlock Holmes.
Eh ben non, c'est pas Sherlock Holmes, il s'agit d'un héros français, Maximilien Heller. Vilcopiteur vont dire certains. Eh bien non, car Maximilien Heller de Henri Covin est sorti en 1870 en feuilleton puis en roman, alors que Sherlock a vu le jour sous la plume de Conan Doyle en 1876. Certains même prétendraient que Doyle aurait peut-être lu lors de ses séjours familiaux en France, et voient même ça et là des hommages au héros originel dans les aventures du Sir Holmes. C'est superbement écrit, mais ce sera la seule aventure de Maximilien Heller, l'auteur s'étant lancé par la suite dans une série de romans historiques. Raté donc, mais de peu.
Comme Conan Doyle, en fait.
Oui, aussi. L'ouvrage est sorti. Et Conan Doyle est revenu sur. Il a compris que c'était pas con. L'ouvrage est sorti chez Ginko de l'indispensable Pierre Laurendeau, que j'embrasse chaleureusement ici. Alors parlons maintenant du marécage, au pluriel, de monsieur Sergueï Dounovets, que nous ferons venir à Imaginaire peut-être l'année prochaine. Le monsieur a écrit entre autres. Les loups de Belleville, une remouture des enquêtes de Nestor Burma dans la collection Les Nouveaux Mystères de Paris, car il est un grand admirateur d'Elo O'Malley. Dans Marécage, paru récemment chez Ballant, Sergueï utilise comme trame de fond aux aventures de ses héros un univers dystopique, très joliment maîtrisé. L'histoire se passe en Camargue, 30 ans après notre époque, et on va dire que la situation ne s'est toujours pas arrangée. Par exemple, le retour de la peine de mort ne suffisant pas, on s'en amuse au travers d'une émission de télé-réalité. Le condamné est enfermé dans une sorte de cabine téléphonique inviolable où se trouve un outil permettant de tuer son occupant. Ça peut être du gaz, un chalumeau, un couteau. Un système d'enchères va permettre de le sauver momentanément ou de l'exécuter. C'est sympa, hein ?
Oui !
La Camargue risque l'assèchement au vu de profits de promoteurs dont il semblerait que les visées ne soient pas complètement humanitaires, à l'étonnement général. Les héros sont une fratrie, Zach, Harvey... Les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et Sam Yellow. Zach et Harvey ont joué de leur ressemblance à de nombreuses reprises. Y compris pour les filles, oui, Julien. L'un est un bad boy qui n'hésite pas à se livrer au trafic d'êtres humains, l'autre fait partie d'une sorte d'ONG qui lui permet d'enchérir pour sauver les condamnés à mort dont je parlais. Le dernier, Sam, est un psychopathe violent, mais capable d'amour familial. Reste Jeanne, 12 ans, une survivante qui commençait dans une panade de première et qui va être sauvée par l'un des frères qui va la mettre sous la protection du psychopathe. L'idée est inquiétante, mais elle fait mouche. Très rapidement, la fratrie va être la cible de plusieurs groupes aux intentions pour le moins hostiles. Le roman est rythmé, rapide et très bien construit. Une bonne occasion de découvrir Sergueï Dounovets dans ses œuvres. Et puis, j'ai vu des trucs. Une série de daubasses sans nom, que ce soit en film ou en série. Alors, je vous les cite dans le désordre. Braquage en or, Abigail, Major Grom, Seconde Chance, Awake, ne vous fatiguez pas à télécharger ces bouses, le bilan carbone qui en étulterait serait un gaspillage éhonté. Du coup, j'ai revu les trois saisons Twin Peaks. Bon, ok, j'avais pas vu la 3. Et bien dans la saison 3, en dehors d'un épisode 8 où j'ai vérifié la composition de tous les trucs que j'avais ingérés jusqu'à 24 heures auparavant, c'était incroyable. Et d'ailleurs, à la fin de la saison, je me suis dit que j'avais dû rater des trucs et je me suis renseigné. Effectivement, j'avais raté des trucs que m'ont révélé des experts du décortiquage de séries. Et ça marche. Bon, on peut regretter que le commun des mortels que je suis, quoique doué d'une vivacité d'esprit que m'envie Marlène Schiappa, soit obligé de se faire expliquer sa série par des experts. Du coup, je me fais les experts à Miami, ça me repose. Il faut dire que David Caruso, qui interprète le chef de la CSI à Miami, dans Jean-Zen, on frise le coma léger. Les autres héros de la série sont des petits genoux de 30 ans, propres sur eux et beaux gosses. Quant aux héroïnes, c'est plutôt les quadras sexy ou vertigineux décolletés. Je note que les victimes sont souvent de pimpantes gamines de 20 ans ou moins, que les paysages de Miami sont terriblement moches et que je n'irai jamais vivre là-bas. Non, Julien, je ne suis toujours pas allé voir Dune, ni regarder la série Fondation. En fait, j'ai peur. J'ai tellement entendu de choses sur Dune venant de gens qui croyaient aller voir un film sur Halloween à la Dune du Pilat. Et puis, un directeur Scott de David Lynch aurait eu de la gueule quand même. Bon, ok, j'irai voir. En attendant, ne regardez surtout pas la télé. Lisez.
The Wedding Present, c'était un groupe de pop anglaise, mais quand même avec des grosses, grosses guitares. Et en 1991, il dit, tiens, on va sortir un 45 tours tous les mois avec une compo sur la face A et une reprise sur la face B. Quand ils ont fait ça pendant un an et ils ont groupé ça dans des compilations qui s'appelaient Hit Parade. Et donc voilà, c'était la reprise du thème de Twin Peaks Falling. Allez, on passe à l'interview. Sébastien, dans les émissions précédentes, nous avait parlé d'un crowdfunding du marteau et l'enclume sur un hors-série de spécial Loup Solitaire, et donc il a interviewé leur rédacteur en chef. On s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
Pour ma nouvelle interview sur Radio G, je suis avec la personne de Benjamin Berger, l'initiateur du webzine Le Marteau et l'Enclume. Nous vous en avions déjà parlé précédemment avec Romain. Alors, pour vous situer plus, Benjamin Berger, donc, cela fait depuis 10 ans qu'il a un pied dans les sphères du jeu vidéo et de la pop culture en général. Ça tombe bien, les amis, comme dans l'imaginaire, nous adorons particulièrement la pop culture. Donc, Benjamin Berger est aussi auteur de livres dont vous êtes le héros, L'épopée du moine guerrier et La geste du chevalier errant. Alors, ce sont des livres-jeux épiques et qui vont ressortir chez Posidonia Édition en 2022. Et il y aura des suites à ces livres qui sont des premiers tomes. Dis-moi, Benjamin, comment t'es venue l'idée du marteau et l'enclume ?
Alors, c'est pas trop calculé, c'est une somme de hasard plutôt. Ça vient de mes rencontres professionnelles et aussi dans le milieu associatif. Donc, j'ai participé en tant que rédacteur il y a de ça quelques années à un magazine sur les jeux vidéo indépendants. Ça s'appelait P911. Et donc, c'était un magazine imprimé qui est mort au bout de quelques numéros. Bon, faut reconnaître que le sujet des jeux indés, c'est pas très vendeur à la base. Voilà. Ceci explique cela. Bref, de là, le fondateur a voulu repartir sur un nouveau concept de magazine. Et il m'a donné carte blanche pour autant le concept que la constitution d'une équipe. Et moi j'y croyais parce qu'il avait des liens solides avec le magazine Plateau, le magazine des jeux de société. Donc de mon côté je fais tout ce qui était prévu et au bout d'un moment le principal financier se barre. Donc j'ai pas envie d'abandonner, sinon je me serais cassé la tête pour rien quoi. Et je le fais moi-même. Avec mes propres moyens, et le magazine sur la pop culture qui devait être imprimé devient un webzine, c'est-à-dire à lire sur écran.
On trouve quoi dans le magazine ?
Alors j'ai profité du format numérique pour proposer une partie avec du contenu interactif, c'est-à-dire des aventures dont vous êtes le héros, donc fait par des fans qui appréciaient Sorcellerie pour le numéro Sorcellerie, Quête du Graal pour le numéro Quête du Graal, etc. Donc on fait par thématique. Autrement, il y a des rubriques jeux vidéo, cinéma, séries télé, jeux de société, bande dessinée, livres-jeux, livres audio, bref, tout ce qui forme la pop culture en général. Et donc le format numérique a un énorme avantage, c'est qu'il nous permet de faire de longues analyses sans limite de page. Voilà. On peut dérouler sa pensée comme on veut. On a pas mal d'interviews aussi, donc des auteurs et des illustrateurs, mais aussi des dessinateurs de presse de notre rubrique News.
Peux-tu me dire qui fait partie du marteau et l'enclume ?
Ce sont principalement mes amis de Retroplaying. Je fais partie de cette association depuis 2013. On a monté un magazine imprimé sur les jeux vidéo rétro. Donc les jeux qu'on aimait bien dans les années 80 et 90 et qu'on pratique toujours. On les a jamais quittés et ils nous ont jamais quittés. On a fait une dizaine de numéros en magazine imprimé plus des hors-séries dont un qui était vraiment chouette sur le Mega Drive. Et puis j'écrivais des livres sur les jeux vidéo depuis des années et je pense que c'est pas que j'en avais marre mais j'avais envie de parler d'autre chose. Et donc moi et les autres de Retroplaying, on s'est retrouvés sur le marteau et l'enclume pour parler de pop culture en général. Voilà.
Pourquoi des hors-séries sur les livres-jeux ?
Tout est parti du magazine Retro Laser, des éditions Omake Books, Je leur ai proposé comme premier article un sujet sur les livres-jeux, mais le rédac-chef m'a accordé 10 pages et pas une de plus. J'ai fait au mieux pour résumer mon propos, tout en disant que c'était dommage que la moitié de mes recherches reste sur mon disque dur. J'ai donc enrichi ce travail et je l'ai remodelé pour pouvoir le publier dans le webzine en format hors-série. Parce que je pouvais pas l'inclure tel quel, c'était... Voilà, ça prenait trop de place, donc il fallait vraiment que ce soit hors-série. Donc le premier est consacré à la saga du prêtre Jean, le second à la quête du Graal, et le troisième à la saga sorcellerie. Et donc ça comprend dedans pas mal d'analyses d'Aronard, donc notre fidèle critique des livres-jeux, et bien sûr un tas d'interviews, que ce soit les auteurs ou les illustrateurs d'époque. Et donc là, on planche sur le quatrième hors-série qui est sur Loup solitaire. Et donc c'est là, le contenu est vraiment monstrueux, autant dans les critiques, analyses et interviews.
Quelles sont vos nouveautés dont tu as envie de nous parler ?
Et bien, la nouveauté, c'est la version imprimée du webzine qui est réclamée depuis le départ par certains lecteurs. Et c'était une demande à laquelle on ne pouvait pas répondre jusqu'à présent parce que ça occasionnait trop de frais et trop de ventes incertaines. Mais après avoir étudié attentivement les différentes options qui existent, une solution rassurante s'offre à nous en distribuant le magazine directement sur Amazon. Donc le premier numéro imprimé, c'est le hors-série consacré à la saga du prêtre Jean. Et il est dispo pour 15€ sur Amazon. Alors, voilà, 15€ environ. Mais notre priorité reste toujours le webzine, parce que la version papier, elle est plus vue comme un complément qui s'adresse aux nouveaux lecteurs.
Voilà. En conclusion, sur le 101.5, je mentionne un nouveau MOOC du Marteau et l'Enclume qui est sorti en octobre sur Amazon. C'est sur la série des plus humoristico-horrique, la quête du Graal. Et maintenant, les amis, ambiance plus que tropicale sur Radio G, avec le titre « Pluie fine pour se déhancher » de Corinne, un remix.
Un garçon, t-shirt rouge, short noir. Peur du soir, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, plus fine.
ça va pas trop les gêner, je crois.
C'est sûr.
On va peut-être lui demander son avis.
Oui.
On a une rubrique agenda assez chargée. On commence par... quoi ?
T'as l'air hyper bien parti pour parler de sarcophage.
Ouais, il y a un escape, le dernier de la saison, troglodytes et sarcophage. Donc, ce sont des grottes troglodytes avec des animations, quelquefois, à Douai-la-Fontaine. Et donc là, ce sera le jeudi 11 novembre, avec pour thème le temple des énigmes. Donc, il y a deux séances d'une heure à 18h, une à 20h. Je voulais vous dire qu'il y aurait Roll Event aussi du 12 au 14 novembre. On avait déjà interviewé David Robert à ce propos l'année dernière, le président de la Fédération française du jeu de rôle. C'est eux qui organisent ça, 72 heures cette année d'animation, jeu de rôle en ligne. Ce sera sur le Discord de la Fédération française de jeu de rôle, donc avec des parties et puis des conférences. Et c'est caritatif, tout l'argent est reversé, notamment Blues Rose, qui est une association qui fait des animations ludiques dans les hôpitaux pour les enfants.
C'est beau.
Julien, t'avais une expo Goldorak à Rennes, paraît-il.
Ouais, il y a une expo qui s'appelle Goldorak Go à l'atelier 24 rue de Châteaudun à Rennes, qui se déroule du 11 au 14 novembre. C'est très bientôt. Alors, ça n'a aucun rapport avec la bande dessinée, mais on a plusieurs artistes indépendants, toujours de la bande dessinée, qui nous invite à découvrir un univers qui les a enchantés. Alors je vais pas lister les noms, mais tout ce beau monde se retrouve aux côtés de Tarek, que moi j'avais connu il y a quelques années quand il sortait chez Emmanuel Proust une bande dessinée adaptée d'Agatha Christie. Mm-hmm. J'aime bien son dessin. Ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt pas mal. Ça change, et Goldorak a inspiré beaucoup de monde dans les années 80.
Ouais, moi je voulais terminer. Pierre-Marie, tu avais des trucs à annoncer, mais on en parlera un peu plus profondément.
Oui, puis non, j'avais juste un truc à dire, c'était Art to Play. Ouais. Je sais que tu n'en as rien à faire, mais moi je trouve que c'est plutôt intéressant. À Nantes, Art to Play, sur le parc du Beaujoire de Nantes, pendant deux jours, le salon Pop Culture et Art Ludique Art Graphique ouvre ses portes. C'est entrée libre de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche.
Oui, mais c'est quand ?
Ah bah. Eh bah oui, non, mais vous ne pouviez pas le savoir, franchement.
Bah non.
Pourquoi tu me poses la question ? Non, c'est le 13 et 14 novembre.
D'accord, ok. Moi, je voulais parler un petit peu de l'actu Blade Runner. Alors, ça, vraiment, je vais vous le faire en quatrième vitesse. Il y a l'annonce du jeu de rôle chez Free League, là, déjà, qui m'a fait un petit peu dresser le poil. Là. Juste après Alien, ça y est, ils enchaînent. Ils vont adapter. Tous les films de Ridley Scott, un peu, on verra si c'est fidèle plutôt au roman de Dick ou ses suivants, là, KW Jeter, ou si ça s'inspire vraiment des films, notamment le film de Denis Villeneuve aussi. Et il y a un week-end Blade Runner au 104 à Paris. Alors ce sera 27-28 novembre, mais vous n'irez pas parce que ce sera le salon imaginaire à Angers.
Ça ne peut pas être partout. Ouais. Il y a des priorités.
Bon, avec beaucoup de conférences, pas mal de gens qu'on a vus aux Utopias, Roland Lehoucq, Sébastien Steyer, etc. Et autre chose, il y a une série animée Blade Runner qui sort le 14 novembre. Donc c'est. Fait par des Japonais, c'est fait par les gens qui avaient... Est-ce que vous avez vu, avant Blade Runner 2048, le film, ils ont fait trois courts-métrages quand même ?
Non.
Ils n'avaient pas vu. On retrouve d'ailleurs des personnages qu'on retrouve dans le film ensuite. Et il y en a un qui s'appelait Blade Runner 2022, le blackout, ça raconte comment les synthés ont foutu la pagaille en faisant un gros blackout électromagnétique et tout, qui a effacé tous les fichiers, on ne sait plus qui est un humain et qui est un synthé. Bref, et le court-métrage qui fait une bonne douzaine de minutes avait été, c'était chapeauté par Watanabe, le monsieur qui a fait Cowboy Bebop par exemple, et donc c'était plutôt cool. Et là ils sortent une série d'animations qui s'appelle Black Lotus, Blade Runner Black Lotus, mais la bande-annonce ça va être de la 3D, moi je trouve que c'est assez moche, bon, on verra. Ça sort sur Crunchyroll le 14 novembre. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site où on peut voir des animés japonais une semaine après leur sortie. Voilà, voilà. Et donc, on va terminer, Sébastien est déjà là pour les voix du scénarium. On va terminer juste un petit tout extrait de la musique, en fait, de ce court-métrage qu'on peut trouver sur YouTube, donc Blade Runner Blackout 2022, fait par Flying Lotus. Et ça, avec un son très, très vangélien, je dirais. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines sur le 101.5. Bye bye. On aura Jir Cobancroft qui viendra nous parler son nouveau roman d'épouvante, La Maison Jaune.